Le maire, par Georges Baume. On disait que M. Bertrand ne voulait plus être maire. Tout le village de Nézignan-l'Évêque était en émoi. Jamais on n'aurait cru cette calamité possible. On s'était préservé du phylloxéra. Mais il semblait, à présent que M. Bertrand ne voulait plus être maire, que les blés ne pousseraient plus, que les vignes et les oliviers étaient en péril, qu'il n'y aurait plus d'oiseaux dans les garrigues, où l'on va, sous prétexte de chasse, passer des journées de paresse et de ripaille sur l'herbe, au bord des sources. Depuis des générations, les Bertrand dirigeaient le pays. Laborieuse et probe, et ne détestant pas les fêtes, le bruit des bals et des baraques foraines, ils administraient la commune ainsi qu'une ferme, pour l'honneur, avec des charges parfois coûteuses. Ils la rendaient avenante et jolie, comme une demoiselle. Leur fortune garantissait sa prospérité. Leur bien-être parfait était l'image flatteuse dans laquelle les paysans se miraient avec plaisir. On ne les discutait point. Ils étaient rois. D'abord, ils ne prêtaient pas d'argent. Ils secouraient les nécessiteux en les employant sur leurs terres. Le village vivait en dehors du monde, dans ce coin de Languedoc, entre la rivière et la montagne, près de la mer. C'était une oasis de calme et de simplicité. Nézignan-l'Évêque était sûr, grâce à M. Bertrand, d'être préservé des maladies électorales qui déciment les communes voisines. On soupçonnait Mme Bertrand, familièrement appelée Rosalie, de travailler contre le village. Il fallait l'excuser. Elle tenait à son foyer, à la santé de son mari, surtout au bonheur de son enfant. Chaque soir à la maison, quand Monsieur le maire, qui s'occupait le matin des intérêts de la commune, revenait des champs, c'était le même reproche, la même question. « Eh bien, qu'as-tu décidé? Est-ce que tu continueras à négliger tes affaires pour celles du public ?» Monsieur Bertrand s'asseyait en soupirant, frappait sur les dalles de la cuisine ses gros souliers trempés de la boue, s'essuyait le front avec son mouchoir à carreaux rouges et répondait « Nous verrons, nous verrons. Ah, mon pauvre Bertrand !» Grande et rougeaude, d'un énorme embonpoint qui lui donnait un air de majesté, elle mettait le couvert en un tour de main et versait la soupe. Ensuite, elle appelait son fils, l'asseyait à table, surveillait qu'il ne lui manquât rien, qu'il eût sa serviette bien attachée au cou, de peur des taches. Monsieur Bertrand, très ému, en épiant son fils, prenait les assiettes l'une après l'autre et les remplissait. Depuis un an, la joie était partie de la maison, comme les hirondelles qui ne reviennent plus au toit hospitalier. Ils avaient eu leur enfant un peu tard. Ils avaient mis en lui le meilleur de leur orgueil. Tout jeune, il était allé dans un lycée. Avec sa nature de paysan acharné à l'ouvrage, il avait eu la passion d'apprendre, de même que, demeuré au village, entre les cailloux de sa montagne et les roseaux de sa plaine, il aurait eu la passion de labourer les glèbes. Il avait arraché la science des livres, chaque jour, en suant, avec l'opiniâtreté du tâcheron, avec aussi l'amour-propre d'utiliser les sacrifices d'argent que les siens s'imposaient. Il s'était épuisé. Déjà, les jours ridés, il avait une inertie de vieillesse, un goût de sommeil. Les choses s'écoulaient autour de lui, indifférentes. Il vivait dans l'innocence des enfants, souriait parfois, d'un visage ingénu, dans le silence des murs ou au soleil des campagnes, tandis que peut-être une jolie vision, un rêve, éclairait son esprit. Sa mère l'avait conduit dans les Pyrénées, à des stations thermales et même à des pèlerinages. Son père avait consulté les plus célèbres médecins de Montpellier. Jusqu'à présent, rien n'avait fait. Noël était sans vigueur. Son intelligence ne voulait pas éclore de nouveau. Cependant, il conservait intacte son âme. Il aimait jalousement son foyer, il aimait les champs et les cieux, leur paix auguste et la mélancolie des soirs devant lesquels il s'extasiait, les mains jointes, avec une émotion de prière, comme à l'église. Il avait aussi le sens de l'argent, des choses propres et ordonnées. Mais, au-delà de son horizon, le monde n'était plus. La nature le maintenait seulement dans une pénombre où il souriait seulement aux voix de mystère qui traversaient le silence épais de son front. Malgré tout, sa mère espérait le sauver, le voir beau et fort, pareil aux garçons de son âge, qui étaient presque tous mariés. Elle espérait le voir parmi eux, au champ, dans le village, contribuant à la gaieté du pays, et le premier de tous, le fils de monsieur le maire, entouré de respect et d'adulation. Certes, alors, elle accepterait avec empressement que monsieur Bertrand continuât à régner. Plus tard, c'est Noël qui serait maire de Nézignan l'évêque. Monsieur Bertrand n'osait pas trop parler, de crainte d'offenser son épouse. Lui ne croyait pas à la guérison. Ce serait un sacrifice inutile d'abandonner la mairie. Bien qu'il fût modeste, quand il envisageait la possibilité de déposer l'écharpe, il souffrait dans sa vanité autant que si des voisins lui eussent acheté la moitié de ses vignes. Il lui semblait des choix dans l'estime des autres et dans la sienne propre. La mairie était pour lui un fief. D'ailleurs, il avait contracté des habitudes. Il se rendait à la mairie tous les matins, visitait l'école et l'église une fois par semaine, recevait de temps à autre le percepteur ou l'agent voyer, intervenait chaque jour dans les querelles de famille, répandait sans lassitude la justice et la bonté. Il commandait en maître, en chef de famille. Il se voyait au-dessus du curé, tout près du bon Dieu. Sa vie était belle, comment la changer ? Partout, le bruit de sa retraite prenait de la consistance, inquiétait le pays. Qui remplacerait M. Bertrand ? Qui aurait ce courage ? On n'imaginait pas d'homme aussi riche et aussi dévoué. À mesure que les élections approchaient, la perplexité se faisait plus vive. Le plus embarrassé, sans contredit, c'était M. Bertrand. Il traversait le village aussi peu que possible pour éviter les indiscrétions. « Eh bien, monsieur Bertrand, comment va Noël ? » lui demandait-on sur le seuil des portes. « Pas plus mal, mais ça pourrait aller mieux. »« Dites, monsieur Bertrand, est-ce vrai que vous ne voulez plus rester à la mairie ?» Les hommes l'entouraient avec effusion. Les femmes s'avançaient, attentives et apitoyées. Lui tremblait un peu, baissait la tête et répliquait « Nous verrons, nous verrons. » « Vous auriez tort, monsieur Bertrand !» Les femmes, tout en caressant leurs petits, qui, accrochés à leur jupe, observaient monsieur le maire, ajoutaient avec tendresse « Croyez-nous, allez, Noël guérira !» Alors il toussait bruyamment dans le creux de ses mains, faisait de grands gestes et s'éloignait vers la maison. Sa femme, empressée à le soigner, lui apportait ses pantoufles et la vieille veste de drap sans boutons qu'il traînait dans tous les coins, à la cave et à l'écurie. Il coupait du bois, roulait des tonneaux, surveillait la litière de son gros cheval, donnait un coup de main aux domestiques pour ranger les charrettes. Noël, quelquefois, l'accompagnait, lui aidait. C'était alors une joie profonde pour M. Bertrand, qui s'imaginait, lui aussi, en le voyant travailler comme les autres, que Noël guérirait. Mais Noël, brusquement, tomba malade. Ce fut une crise de langueur, de défaillance étrange. Il refusa de descendre de sa chambre. Le jour même l'importunait, et sa mère dut lui acheter de lourds rideaux qu'il tirait devant la fenêtre pour ne plus penser qu'à la nuit. Il était plus malheureux que les pauvres qu'il voyait travailler dans les libres campagnes et se promener autour du village avec les femmes en riant. Sa mère ne cessait de pleurer, irritée par les sournoiseries de M. Bertrand qui songeait beaucoup plus à l'élection qu'à leur fils. Noël répondait à peine aux questions de sa mère. Il était pâle comme un lys. À la rose clarté qui brûlait dans sa petite chambre close, il rêvait du matin au soir, étendu dans un grand fauteuil de paille, les mains fines et nerveuses, les yeux fixes, ardents d'une lumière qui faisait peur. À quoi donc rêvait Noël, qui avait la pensée si frêle ? Comme la glèbe au printemps, son être éprouvait la révélation de l'amour éternel. Le désir germait en lui, et aussi montait la vision des couples fiancés, des mariages à l'église et autour des tables de famille. mais c'était sans parole, pur comme l'eau des torrents, à peine sensuel, dans un besoin du cœur. Noël ne savait pas, ne pouvait pas vouloir, la réalisation du désir où il se baignait. Un soir, il fondit en larmes, à l'heure où les paysans quittent les cultures, où les cieux frissonnent d'agonie. Il se lamentait, comme s'il eût perdu des trésors jamais. Sa mère accourut, et pour la centième fois, elle lui proposa de quitter le pays, une quinzaine.
« Tu ne peux pas vivre toujours enfermé. Viens, nous irons dans les montagnes. Tu verras, le changement d'air te fera du bien. »«
Oui, allons-nous-en. »
Il pressait avec fièvre les mains de sa mère et se réfugiait contre son sein. Le lendemain, ils partirent en toute hâte pour les Cévennes, à 6 heures de chemin en voiture. M. Bertrand tolérait tout, disant que si ça ne faisait pas de bien, ça ne pouvait pas faire de mal. D'ailleurs, pendant ces 15 jours, il serait à l'aise pour préparer son élection. Dans un petit village isolé en pleine Cévennes, Noël trouva une nature nouvelle, expansive, dont il semblait qu'on entendît, dans le silence, battre le cœur robuste. C'était des rochers brillants de mousse, de gras pâturages, des ravins d'où s'échappait la fumée des charbonniers, des bois profonds et harmonieux. Noël passait ses jours couché dans l'herbe, au bord d'une source. Des femmes venaient remplir leurs cruches. Il les contemplait comme des rêves, et cela le faisait sourire de penser à elles. Sa mère l'accompagnait quelquefois. Elle était heureuse. Il lui parlait des femmes qui venaient à la source devant lui, si simples, sans honte, les jambes nues, pures et fortes comme des bêtes. Les derniers jours, il se mit à rougir. C'est qu'il découvrit le sens de sa jeunesse, le frisson de vivre. Il connut enfin la sensualité, mais avec une âme charmante et légère. Il se sentit aimer son pays de plaine et réclama d'y retourner. Dès son arrivée au village, il voulut s'en aller avec son père dans les champs. Puis on le vit, seul, commander aux ouvriers. Son père riait de plaisir, sa mère s'enorgueillissait. Mais Noël continuait à préférer la solitude, à demeurer à l'écart, ainsi que dans les montagnes, et il baissait les yeux devant les femmes. Il ne lui venait pas le courage de parler aux hommes de son âge, d'échanger un sentiment. Peut-être ce sentiment, ce désir d'amour, dont il éprouvait tant de volupté en lui-même, peut-être l'ignorait-il encore, comme l'arbre, si rayonnant de fruits et de feuillages, ignore les racines noires et crochues qui s'enfoncent dans les terres. Suivant l'usage, à cette époque de l'année, une couturière du village réparait le linge de la maison, les habits, les sacs des olives et des amandes. Cette année, c'était une des filles du chantre, une jolie petite brune, qui bavardait et riait au moindre propos. Elle occupait, sous la fenêtre, 2 chaises, sur l'une desquelles, la plus basse, elle était assise, tandis qu'elle appuyait ses pieds au barreau de l'autre. À cause d'elle, la maison s'animait de jeunesse. Noël prit bientôt l'habitude de la voir. Il ne lui dit rien pendant les premiers jours. Mais peu à peu, il se rapprocha en l'admirant. Elle lui parlait de sa santé et de ses études. Elle lui confessa le bonheur qu'elle aurait de manier de l'argent, de commander à des ouvriers, de posséder des champs et des bêtes. Elle le félicita d'être riche. Noël s'enorgueillit un peu. Il commença de parler à la jeune fille, de répondre avec des mots courts et timides, avec des gestes. Il la questionna sur son ouvrage, étonné de l'avoir si habile, de l'avoir remué si prestement les aiguilles, sans se piquer les doigts. On eût dit qu'elle le courtisait. Pourtant, elle venait chez les riches sans arrière-pensée, seulement radieuse de ses quelques semaines de bonne table et de bon foyer. Madame Bertrand les considérait avec plaisir, se faisait discrète, comme devant les oiseaux, pour ne pas les empêcher de chanter. Elle les laissait seuls dans leur intimité pure et joyeuse. C'est elle, sans doute, qui avait une arrière-pensée. Quelle gloire pour la jeune couturière si elle devenait jamais la belle-fille de Monsieur le maire, la dame riche du pays. Elle aurait pitié de Noël aussi. et dans son cœur jaloux, Madame Bertrand croyait que son fils était un parti enviable. Noël ne quittait pas la cuisine. La rivière, le coteau, les chemins abrités de feuillets, il oubliait tout. Le petit coin sous la fenêtre où se tenait Clotilde devint son paradis. Il se complut à écouter une parole humaine et la vanité lui vint de sa fortune. Clotilde se laissait approcher. Il n'y avait plus de timidité, mais une pudeur exquise. Il touchait la robe de Clotilde comme par mégarde. Il lui souriait près des yeux, apprenant ainsi les ruses et les mensonges. Le matin, il se levait de très bonne heure. Le soir, quand Clotilde s'en allait, il accompagnait dans la rue et il souffrait de la nuit qui couvrait le village. Un brusque changement se fit dans la maison. M. Bertrand s'émerveillait de la bonne humeur de Noël, de l'essor de son esprit et de sa parole, de son penchant à la rêverie quand Clotilde n'était plus là. Un jour, il prétendit qu'il pouvait bien garder l'écharpe puisque le bonheur revenait de lui-même. Mais sa femme s'y opposa. « Non, dit-elle, il faut que tu résignes tes fonctions pour te consacrer à notre enfant. Il faut que tu résignes tes fonctions pour te consacrer à notre enfant. C'est le moment, moins que jamais, de nous quitter. » « Tu vois bien que je ne suis pour rien dans le contentement de Noël. C'est cette petite. » « Oui, je le vois. Parbleu, j'ai même l'intention de chercher de l'ouvrage pour prolonger son séjour ici. » « Crois-tu que Clotilde écoute Noël pour nos beaux yeux ? Non, va, il lui serait agréable d'être la belle-fille de Monsieur le maire. »« Et notre argent ?» Monsieur Bertrand haussait les épaules et s'éloignait. Il avait trop de soucis pour penser à l'argent. La veille de l'élection, personne ne connaissait la décision de Monsieur le maire. Accepterait-il de nouveau l'écharpe ? Lui-même n'en savait rien. Clotilde voulut savoir. Elle questionna Noël à voix basse. Celui-ci la regarda longuement, sans comprendre, fermé à toute ambition terrestre, tellement habitué à voir son père occuper la mairie, que, pour lui, il n'y avait pas plus de doute sur cette propriété que sur celle de leur vigne. Mais Clotilde, intriguée davantage, soupçonnant qu'il respectait peut-être un secret de famille, réitéra sa question. Alors Noël lui saisit les mains, et vite, dans une hâte de faute, les baisa. Elle se mit à rire bien fort et lui dit de ne plus recommencer. Le lendemain, M. Bertrand mit son vêtement noir, comme s'il allait à un enterrement, sa veste courte, son ample pantalon, son feutre gris, ses souliers cirés. Il prit sa canne de noyer et passa d'abord à la mairie donner des ordres. Sa femme et son fils se rendirent seuls à l'église, où il arriva un peu en retard. Mais on l'attendait. Dès qu'il fut installé au banc des marguilliers, à la première place, on entama l'office. L'élection eut lieu sans rien modifier aux antiques coutumes. Après la messe, tous les paysans, graves, n'échangeant d'impressions qu'à propos de leurs terres, se réunirent en dehors du village, sur une aire blanche, où l'on battait la moisson en juin. Il faisait un jour d'or. Nézignan l'évêque, bâti sur un promontoire, dominait la plaine, la grande route bleue, cachée çà et là par les mamelons, et la rivière qui brillait entre les arbres comme un poisson. Des clochers de bourgade pointaient au loin parmi les collines. Le silence planait. Les brises apportaient leur parfum de printemps, la gaieté des dimanches. Les paysans restaient muets et soucieux. Le cimetière, avec ses petits murs dévorés par le temps, sa porte de fer que décoraient des buissons d'aubépines et des lilas sauvages, ses arbres pleins d'oiseaux, reposaient familièrement contre des masures. Près de la porte s'élevait un énorme chêne, et sous son toit de branches, il y avait des blocs de pierre répandus, où les vieillards passaient leurs derniers jours, où, le soir, les filles se retrouvaient avec leurs galants et leurs mères. Le ciel était riant comme un jardin de lumière. Sur l'aire blanche, les hommes se promenaient par groupes, les poings dans les poches. Enfin, M. Bertrand apparut, d'une main boutonnant sa veste, de l'autre agitant sa canne. Par intervalles, il secouait sa grosse tête vers les paysans. Il avait l'air de les compter, comme il eût fait de ses moutons. Ils s'empressèrent au-devant de lui, en une rumeur de troupeau, et l'accompagnèrent jusque sous le chêne. M. Bertrand accrocha sa canne de noyer à un clou planté dans une fourche de l'arbre par les lessiveuses qui tendaient des ficelles pour leur linge. Et il se dressa, parut plus grand et plus digne. Il claqua des mains. Toute l'assistance se rangea alentour avec respect, tandis que les branches se déployaient et murmuraient très doux. Des oiseaux pépillaient dans les arbres du cimetière. Des souffles frais, en un rythme de vagues, ondulaient. Les campagnes s'épanouissaient, au repos, avec leurs sentiers blonds, leurs maisonnettes éparses. Le silence était profond. La rivière respirait là-bas, vers la mer. M. Bertrand claqua de nouveau dans ses mains. Les hommes levèrent le front, avides, se serrèrent les uns contre les autres, comme s'il allait leur jeter la pâtée. « Nous avons, dit-il, le conseil municipal à nommer. »«
Oui, oui !»
M. Bertrand, aujourd'hui, avait un peu de tristesse dans la voix. On eût dit qu'il venait de sangloter.
« Que ceux, reprit-il, qui veulent voter pour moi et mes conseillers, aillent de ce côté. Les autres iront à la porte du cimetière. »
Il fit un geste à droite, puis un geste à gauche. Les paysans, d'une bousculade, se rangèrent à droite. À gauche, on compta cinq adversaires. C'étaient des fainéants, des étrangers.
« C'est bien, prononça M. Bertrand. »
Il décrocha sa canne et descendit du tas de pierres vers les hommes. Ils l'acclamèrent, le conduisirent au village avec des cris de triomphe qui bientôt, grâce aux enfants et aux femmes, se propagèrent par les rues. Sur la place où resplendissait, blanche, la maison du maire, les rumeurs redoublèrent et Madame Bertrand s'avança sur la porte, inquiète, dévisageant ces hommes qui, sans le savoir, compromettaient peut-être la guérison de son enfant. Elle allait parler, mais ils s'élancèrent en l'acclamant aussi et envahirent la maison. Ils vociféraient comme des pillards, agitaient les meubles et dansaient, ils auraient fait danser les murs. Madame Bertrand ne put réprimer son orgueil. Elle oublia un moment sa rancune. On la vit sourire, et tous ensemble, avec enthousiasme, crièrent
« Vive Madame Bertrand !»
Noël, qui descendait de sa chambre, se mit à crier, à danser avec ses hommes. Ils l'amenèrent au café. Sa mère le regarda partir, du seuil, les yeux mouillés de larmes. Il était heureux. Il chantait autant que les autres, son chapeau sur l'oreille. M. Bertrand, délivré, rentra chez lui. Sa femme le gronda aussitôt. Mais il sentit qu'elle lui pardonnait un peu.
« Alors, c'est fait, dit-elle. « Tu ne m'as pas écouté. »«
Qu'est-ce que tu m'avais recommandé ?»«
Comment, tu ne te souviens plus? Tu te moques de moi. »«
Oh, pas du tout, Rosalie. »«
Laisse-moi, je n'ai pas besoin de tes caresses. Je t'avais recommandé d'être prudent, de ne pas accepter tout de suite les fonctions de mère. »«
Je n'ai pas accepté définitivement. Ainsi, j'ai toujours le temps de me démettre. »
« Toi, nous savons que tu ne te démettras jamais. »«
Que veux-tu que j'y fasse, Rosalie, si tout le monde nous aime ?»«
Avec toi, on ne peut pas discuter. »
Madame Bertrand s'écarta, résolue à ne plus répondre. Elle retira de l'armoire, comme tous les dimanches, le linge propre de la table. Par obstination, elle refusait encore à son mari le droit de reprendre son écharpe tricolore. Mais, au fond de son cœur, elle éprouvait la gloriole de rester toujours la première du village, la souveraine adorée. Et aussi, elle pensait à Noël avec une vanité si frémissante, si près du rêve, qu'elle en avait presque honte. Elle évitait de regarder le maître, de crainte de sourire et de montrer son bonheur. M. Bertrand s'était assis derrière la porte, sur la chaise où Clotilde passait ses journées à coudre depuis un mois. La tête entre les mains, il songeait. Un moment, il sentit le soleil qui entrait, qui effleurait son front. Il leva les yeux vers sa femme, qu'il regarda, et ils se mirent à sourire.
« Eh bien, Rosalie, et Noël ?»«
Il est sorti. Tu n'as rien remarqué cette semaine ?»«
Oh, j'ai remarqué, il y a longtemps !»« cette Clotilde est une fée.
Il l'aime, vois-tu?
Elle nous l'a changé, Noël. C'est qu'elle est charmante.
Alors, je ne sais pas. Et toi?
Si ce doit être le bonheur de Noël, nous le laisserons faire.
Elle est pauvre, gémit Madame Bertrand.
Ne nous apporte-t-elle pas un miracle? Ils parlaient à voix basse, avec tendresse. La table les séparait. Tout à coup, Noël entra, amenant Clotilde. Mais Clotilde protestait, refusait de le suivre, rouge de plaisir et de timidité. Les deux époux, ravis de Noël, s'observèrent en riant. Lui, tout guiré, le front découvert, embrassa sa mère. Pendant qu'il s'adressait à son père, Clotilde s'échappa.
« C'est bien vrai, dit-il, que tu reviendras à la mairie ?»«
Nous verrons, nous verrons. Demande ça à ta mère. » Celle-ci maugréa.
« D'abord, que faisais-tu avec Clotilde ?»«
Je voulais vous la montrer. Elle est si belle aujourd'hui. »«
Ah, le brigand ! » s'écria M. Bertrand. « Elle te plaît, Clotilde ?»«
Mais oui, elle est plus jolie qu'une jolie vigne verte au soleil. Je l'aime bien. »
Madame Bertrand, ses poings sur les hanches, admirait son fils. Il s'assit près de la fenêtre, sur la chaise de Clotilde. L'après-midi, il s'égara par les campagnes. Il rencontra de jeunes couples qui chantaient, bras à bras, dans les chemins creux, le long des roseaux. On le saluait, on s'étonnait de le voir à travers champs le dimanche. Il rencontra les sœurs de Clotilde et n'osa les questionner. Pourquoi n'était-elle pas sortie, elle ? Serait-elle venue le retrouver s'il l'avait invitée ? Des pensées de désir et de beauté l'agitèrent. Il se sentit devenir jaloux. Bientôt, il rentra chez lui, découragé. Le lendemain, il se leva le premier dès l'aube. C'est lui qui ouvrit et réveilla les domestiques. Mais, à l'heure accoutumée, Clotilde ne vint pas. Il s'impatienta et sa mère s'aperçut de son inquiétude.
« Qu'as-tu donc ? » lui dit-elle. « Pourquoi fais-tu le sournois ? T'avons-nous refusé quelque chose ?»«
Non, mère, laisse-moi. »
Il ne put s'exprimer davantage et sanglota.
« Mais Clotilde va venir. Tu vois bien que je prépare sa couture. »
« Ah !»
Clotilde apparut à l'instant. Noël s'élança avec effusion pour la recevoir, pour la remercier d'être venue. Il frissonnait de joie. Elle comprit qu'il s'était inquiété. Elle se fit humble, un peu sérieuse, ne sachant comment rendre à Noël ses caresses et sa bonté. M. Bertrand s'était rendu à la mairie. Bientôt, Mme Bertrand, son panier au bras, s'en alla au marché. Et Clotilde, avec sa malice de paysanne, pensa que les parents de Noël avaient fait exprès de le laisser seul avec elle. Alors elle eut une crainte vague, un trouble sensuel. Noël s'assit auprès d'elle, insinuant, et lui toucha les mains. Cela la fit frissonner à son tour. Elle s'écarta.
« Tu as peur ? » dit-il.
« Non. »
Elle examinait les choses dans la cuisine avec angoisse. La place était déserte.
« N'aie pas peur, Clotilde. Tu te plais avec moi ? Tu voudrais vivre avec nous ?
Pourquoi ? »
À présent, elle abandonnait ses mains entre celles de Noël. On avait parlé d'elle dans le foyer riche et on l'aimait. Sans doute, les paroles de Noël étaient l'écho de l'entretien des parents.
« Si tu veux, reprit-il, tu seras mienne. Je t'aimerai, Clotilde. Tu peux rester avec moi. »
« Comment le sais-tu ? »
« Ma mère te le dirait si tu voulais. »
Elle se recueillit et, après un moment, tandis qu'il la contemplait, elle soupira.
« Je suis pauvre. »
« Je n'y pensais pas, moi. »
Ils se turent confus. À midi, on se mit à table. Clotilde y avait sa place de tous les jours, à côté de Noël. Madame Bertrand observait son fils et taquinait son mari à propos de l'élection. M. Bertrand ricanait, tout ragaillardi des bonnes dispositions de sa femme, sentant bien qu'elle était proche la fête du foyer. Soudain, il s'écria.
« Ce matin, je suis allé à la mairie. »
« Je m'en doutais. »
Tu es heureux, ajouta Noël, te voilà toujours mère.
Et toi, es-tu heureux ?
Noël baissa la tête et, avec une grande hâte, avoua ses pensées.
Je serai heureux, oui, à la condition que Clotilde restera longtemps chez nous, qu'elle restera toujours.
Sais-tu si cela lui plaît ? Demanda M. Bertrand.
Clotilde, au lieu de répondre, regarda doucement la mère.
Allons, dit le maître, Nézignan l'évêque en apprendra de belles ce soir. Oui, je ferai publier par le garde champêtre que je reste à la mairie et qu'il y a promesse de mariage entre Noël et Clotilde. Et soyons tous heureux, tu nous apportes le bonheur, fillette. Tiens, embrasse-moi.
Clotilde embrassa de tout son cœur le brave homme et Noël, dans son orgueil d'enfant, souriait. La mère, pour dissimuler son émotion, descendit sans rien dire à la cave chercher une vieille bouteille, le meilleur muscat de la plaine. Georges Baume.